Vous écoutez, on lit pour vous.
Les lymphocytes T4 sont mis en cause dans la COVID longue. Un texte de Jean-Benoît Legault paru le 1er février 2024 dans Le Devoir. Cette découverte pourrait éventuellement permettre d'identifier à partir d'une simple prise de sang les patients hospitalisés pour une COVID-19 qui sont plus susceptibles de développer une COVID de longue durée et donc de les prendre en charge plus rapidement. Les séquelles associées à la COVID de longue durée pourraient découler de la mort, pendant la phase aiguë de l'infection, de certaines cellules du système immunitaire, a constaté une équipe de recherche franco-québécoise. Cette découverte pourrait éventuellement permettre d'identifier à partir d'une simple prise de sang les patients hospitalisés pour une COVID-19 qui sont plus susceptibles de développer une COVID de longue durée et donc de les prendre en charge plus rapidement. On veut pouvoir mieux prédire pour avoir de meilleures prises en charge, a expliqué en primeur à la presse canadienne le co-directeur de cette étude, le professeur Jérôme Estaquier, de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Le professeur Estaquier et ses collègues ont ainsi découvert que certaines cellules du système immunitaire, les lymphocytes T4, montrent des taux nettement plus élevés de mort cellulaire chez les patients qui auront une COVID longue que chez les patients qui se remettront sans séquelles. Cette découverte découle de l'étude de 29 personnes traitées pour la COVID-19 à l'hôpital universitaire de Nîmes, en France. Dans les mois qui ont suivi l'hospitalisation, 19 patients ont souffert d'une COVID de longue durée, tandis que les 10 autres n'ont eu aucune séquelle. Les chercheurs ont constaté que le pourcentage de lymphocytes T4 engagés dans une forme de mort cellulaire programmée, l'apoptose, était de 37% dans le groupe COVID longue et de 24% dans l'autre groupe. En guise de comparaison chez des sujets en santé, le pourcentage de lymphocytes T4 en apoptose se situe à environ 20%. Ce pourcentage est comparable à celui des patients qui se sont bien remis de leur infection, mais il est presque deux fois inférieur à celui des patients qui ont conservé des séquelles. Le niveau de mort cellulaire de ces cellules, donc la perte de ces lymphocytes, est associé à une évolution qui s'est maintenue dans le temps, c'est-à-dire avec des atteintes et des anomalies cliniques, a résumé M. Estaquier, qui est également chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Les chercheurs ne sont pas, pour le moment, en mesure d'expliquer pourquoi l'apoptose des lymphocytes T4 est plus importante chez certains individus que chez d'autres. Ils ont toutefois constaté qu'elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, ce qui soulève l'hypothèse de facteurs hormonaux. Un phénomène similaire avait aussi été observé pour le sida, a dit le professeur Estaquier, puisque l'évolution clinique est proportionnelle à cette perte des lymphocytes. Plus ces atteintes sont importantes et plus l'évolution vers la maladie sera rapide. Dans le cas du SARS-CoV-2, cette immunosuppression pourrait permettre au virus de se disséminer plus facilement et de survivre dans certaines parties du corps, notamment dans la muqueuse intestinale, croient les chercheurs. Elle pourrait aussi favoriser la réactivation de virus latents ou encore dérégler les mécanismes de défense du corps. La chute de ces premières barrières de défense, a dit le professeur Estaquier, pourrait donc favoriser l'installation du virus. Il y a moins d'anticorps de bonne qualité et du coup le virus est moins contrôlé vraisemblablement, a-t-il dit. Et comme il est moins contrôlé, eh bien ça lui permet en fait d'atteindre peut-être des tissus ou des niches tissulaires particulières et donc peut-être de s'installer plus durablement. Peut-être qu'effectivement, c'est ce qui fait les complications que l'on voit. Il y a aussi un certain nombre de travaux qui suggèrent que le virus perdure plus longtemps. Les chercheurs ont identifié une molécule, la QVD, qui est en mesure de réduire de 60% l'apoptose des lymphocytes T4 lors d'expériences en laboratoire, mais on est encore très loin d'une utilisation chez l'humain. Ils chercheront plutôt maintenant à vérifier où en est le taux d'apoptose de ces lymphocytes chez les personnes qui souffrent de COVID de longue durée. Si ce taux est encore élevé plusieurs mois après l'infection, cela appuierait leur hypothèse, ce qui pourrait relancer la recherche de médicaments pour prévenir l'apoptose de ces cellules. Il y a des manifestations au niveau clinique qui suggèrent que le système immunitaire n'est pas aussi apte à se défendre, ce qui pourrait expliquer des complications que l'on observe, a conclu le professeur Estaquier. Les conclusions de cette étude ont été publiées par la revue médicale Frontiers in Immunology. C'était les lymphocytes T4 sont mis en cause dans la COVID longue. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 1er février 2024 dans Le Devoir.
À la recherche du temps perdu. Un texte de Yvon Rivard, paru le 9 février 2024 dans Le Devoir. Fin janvier, je ne projette aucun voyage. J'ai un livre en marche qu'aucun éditeur n'attend impatiemment. Rien d'autre ne m'appelle que le désir d'être pleinement là où je suis, dans la vie la plus extraordinairement quotidienne, portée du matin au soir par un flot de lumière tantôt grise, tantôt éclatante. Mais, tôt ou tard, de cette douce somnolence qu'est l'oisiveté, surgissent de grandes questions, comme celle de cet ami mort qui, la nuit dernière, me demandait ce que j'attendais pour aller le rejoindre. Je lui ai répondu que je voulais comprendre le monde avant de le quitter, et je me suis rendormie tant bien que mal. Je comprends que comprendre le monde est une tâche immense qui nécessite tant de savoir qu'il me faudrait encore une ou deux vies pour arriver au début du commencement d'une hypothèse d'explication. Or, le temps me manque, et je ne suis pas particulièrement intelligent, doué pour ce travail d'abstraction qui consiste à accumuler des données et à les réduire à quelque équation qui leur donne un sens. Cette incompétence est bien fâcheuse, car je veux tout comprendre et ne peux me satisfaire de tel ou tel savoir, si juste soit-il. La question de mon ami m'a gâché la joie de le retrouver en rêve. Heureusement qu'au réveil, je me suis souvenu que le sens premier de « comprendre » est « contenir en soi » et que le monde n'est pas seulement à l'extérieur de moi, cette machine complexe qu'il me faudrait décoder sous peine de recevoir une mauvaise note. L'enfer, être précipité dans un problème qu'on a pu résoudre. Mais quelque chose de vivant qui se mettait à vivre à l'intérieur de moi quand j'y pensais. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Pascal a raison. Si on veut comprendre l'univers et ne pas être trop englouti par lui, il faut donc sans cesse y penser. Mais pas trop, car alors le désir de tout comprendre risque de nous distraire de notre tâche, qui est d'être attentif à cette autre respiration qu'est la pensée, qui va et vient entre l'univers et nous. Comme on va cueillir au marché tout ce dont on a besoin pour se nourrir. Tout comprendre ne signifie pas qu'on puisse se nourrir une fois pour toutes, tout expliquer, parvenir à un savoir objectif, définitif du réel, mais qu'on puisse au contraire tendre vers une vérité qui toujours nous échappe et qui se révèle paradoxalement dans les tâtonnements et les reprises d'une recherche dont l'objet est semblable à l'être aimé, dont Verlaine dit qu'elle n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et l'aime et le comprend. La connaissance, celle qui justifie qu'on y consacre toute sa vie, depuis les bancs de l'école jusqu'à la fenêtre près de laquelle on attend la mort, est une histoire d'amour réciproque. Je ne peux connaître que ce qui cherche à se reconnaître en moi, qui n'a d'autre but que de rester en mouvement vers l'autre, de consentir à sa profondeur inépuisable. Ainsi pensée, la connaissance n'a rien d'une action qui commence et finit, dont on peut mesurer la valeur par la quantité des savoirs acquis ou la rapidité de leur acquisition, mais est une façon de vivre attentif au lointain qui bat dans le proche, au semblable dans le différent. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on fasse appel à diverses technologies pour accélérer les processus d'apprentissage, tels que les ressources offertes par l'intelligence artificielle. Faire écrire et corriger ses textes par ChatGPT et Antidote? Autant de raccourcis qui privent l'élève du temps qu'il perd à chercher par lui-même les réponses aux questions qu'il se pose, qu'il s'agisse d'une règle de grammaire, de la compréhension d'un problème philosophique, de l'analyse d'une œuvre littéraire, car c'est dans ce temps perdu qui ralentit la pensée que la pensée perçoit précisément ce qu'elle fait, opérer le passage du réel à sa traduction intelligible, passage de la multiplicité, des sensations, des sentiments, des images, à la simplicité d'une phrase, d'un concept, d'une équation, et retour aux choses dont les mots se sont nourris, éloignés. Qu'ai-je retenu de ces heures perdues à apprendre par cœur diverses grammaires et à traduire des textes grecs, latins, anglais? Sinon que la langue, à l'image de la pensée dont elle est une traduction, se ferait un chemin parmi un champ de relations plus ou moins complexes, qu'écrire est au-dessus du silence un mince fil tendu entre le monde et moi. J'ai aussi beaucoup de mal avec ces idoles de l'éducation que sont les principes d'excellence, de réussite, qui préside à la création des programmes d'études à trois vitesses. Pour contrer cette traduction pédagogique du capitalisme qui distingue les forts et les faibles, qui fabrique des robots et des consommateurs, pour protéger la justice sociale, la santé mentale et l'intégrité intellectuelle des profs et des élèves condamnés au succès, il serait bon d'afficher sur tous les écrans, avant de les éteindre, cette vérité bouddhiste que tous les sages enseignent depuis toujours. Le chemin est le but. Si mon ami revient me voir cette nuit, je lui répondrai que j'essaie d'effacer le peu que je sais pour le retrouver dans ce monde qui m'aime et me comprend. C'était À la recherche du temps perdu. Un texte de Yvon Rivard, paru le 9 février 2024 dans Le Devoir.
Le Parti russe publicain de Donald. Un texte de Boukhardiouf, paru le 10 février 2024 dans La Presse. On a appris qu'une cour d'appel fédérale a dit mardi à Donald Trump qu'il n'est pas question de lui garantir une immunité pour son procès à Washington. Il doit y répondre de sa tentative d'inverser frauduleusement les résultats électoraux de 2020. Mais Donald est encore là, plus fort que jamais. Rien ne lui colle à la peau. Au contraire, confortablement assis à Mar-a-Lago, il télécommande le cirque républicain qui se joue au Congrès américain. Un pitoyable scénario dans lequel des élus qui pestent contre la crise migratoire travaillent aussi à la garder bien vivante jusqu'à l'élection présidentielle. Au diable les convictions, les pistes de solutions ou les devoirs envers la nation. Ici, on préfère comploter pour garder le brasier très actif, car le gourou aux pratiques mafieuses veut absolument en faire une arme de destruction au service de sa reconquête du pouvoir. Il faut reconnaître que, lorsque vient le temps de parler des raclures politiques planétaires, Donald est dans une classe à part. Mais, n'en déplaise à ceux que la simple évocation de son nom donne envie de gerber, il n'est pas politiquement tuable. Il n'y a pas très longtemps, le simple fait de le voir ou de l'entendre me donnait de l'urticaire. Je souffrais car je n'acceptais simplement pas qu'un tel énergumène puisse trouver une audience aussi large pour prêcher sa haine en toute impunité. Mais depuis 2 ans, j'ai travaillé à décrocher mon cœur de cette énergie malsaine, si bien qu'aujourd'hui, j'écoute ce qu'il dit comme on mâche du chewing-gum. Il m'arrive même de rire de ses conneries ou de l'analyser avec les yeux d'un écologiste passionné par le comportement des primates. Lorsque Darwin affirmait que les grands singes étaient des cousins très proches de l'humanité, je me dis parfois qu'il ne se doutait pas que l'Amérique lui en ferait à ce point la démonstration en couronnant quelqu'un qui a, à la fois, les manières d'un gorille, l'agressivité du chimpanzé, la couleur de l'orang-outan et la sexualité débridée des bonobos. Donald n'est pas juste un chef atypique qui a une admiration décomplexée pour les dictateurs. En fait, il a importé les méthodes de Vladimir Poutine dans le Parti républicain, devenu une petite Russie où il règne sans partage. Comme Vladimir, l'intimidation et le dictat de la peur sont au centre de ses méthodes. La seule différence entre les deux hommes, c'est que Donald ne peut pas éliminer physiquement ses opposants. Gageons cependant que s'il en avait l'espace moral et légal, il n'hésiterait pas à le faire, car dans sa vision de la politique, ceux qui le contestent méritent la destruction. Pour ce faire, il dispose d'une grande armée de disciples fanatisés qui boivent les paroles de leur gourou et intimident ceux qui essayent de défier ses volontés. Aujourd'hui, j'ai cessé d'analyser Donald avec les valeurs qui sont miennes. Désormais, quand je vois la place qu'il occupe encore dans le cœur d'un certain électorat, je me dis simplement que je ne suis pas un Américain. Et en tant que personne totalement étrangère à cette culture, il y a des choses qui s'y passent que je ne comprendrai jamais. Ainsi va la vie. Même le Québec, que j'ai laissé profondément entrer dans mon être, me réserve encore des surprises de ce genre. Il y a, comme ça, des parties cachées d'un iceberg culturel qui appartiennent aux natifs du pays. Pour l'étranger, ces glaces plus profondément submergées sont plus difficiles à s'approprier. Je suis arrivé à la conclusion que je ne suis pas outillé pour comprendre les sentiments et les pensées unissant cette Amérique qui considère Donald comme un messie. Oui, il m'arrive de spéculer sur des raisons, mais le portrait exact échappe à l'étranger à cette culture que je suis. Pour cette raison, plus que la personne de Donald Trump, ce qui me donne la frousse, c'est justement cette Amérique qui lui pardonne tous ses écarts. Ce qui me déstabilise désormais dans le phénomène Trump, c'est de voir qu'il peut rire méchamment des personnes handicapées, du physique des gens, exposer ostensiblement sa xénophobie, traiter les femmes avec une misogynie des plus crasses en se faisant applaudir. Cette Amérique qui hurle sa joie quand Donald lui raconte que les migrants vont polluer son sang me fait peur. Toutes ces ovations qu'il encourage à intimider, exclure, discriminer et insulter les gens sont la preuve que cette Amérique-là n'a pas fondamentalement changé depuis la fin de l'esclavage. cette population qui ovationne Donald quand il traite à répétition Nikki Haley de cervelle d'oiseau me donne la frousse. Mais chaque fois qu'elle manifeste ostensiblement son soutien aux dérives de plus en plus fascistes de Donald, je réalise à quel point je ne comprendrai jamais une partie de ce pays. Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Ainsi disait le philosophe Joseph de Maistre. C'était le Parti russe publicain de Donald, un texte de Boukhardiouf paru le 10 février 2024 dans La Presse.
Les serres continuent de se multiplier dans l'est de l'île, un texte d'Isabelle Ducas, paru le 17 février 2024 dans La Presse. Il n'y a pas qu'à Longueuil où la surpopulation de serres de Virginie pose problème. Mais contrairement à la rive sud, la ville de Montréal ne fait rien pour endiguer la croissance exponentielle du nombre de bêtes dans l'est de l'île. On comptait 127 serres dans ce secteur lors du dernier dénombrement réalisé en février 2023 par le ministère de l'Environnement, alors qu'un rapport de 2021 recommandait d'en conserver seulement entre 13 et 19. Les serres vivent principalement dans le parc nature de la Pointe-aux-Prairies, la coulée Groux et le golfe adjacent, mais on peut aussi en voir dans le secteur du golfe d'Anjou. Mi-février 2024, en 2 heures, les représentants de la presse ont pu en observer une vingtaine dans ces secteurs en plein après-midi, notamment près du cimetière des Trembles. Le nombre de collisions entre des voitures et des serres a augmenté ces dernières années. Il y en a eu 126 en 5 ans dans l'île, dont 37 en 2022, qui ont fait 5 blessés légers selon les données de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC. Aucune donnée n'est encore disponible pour 2023. Déjà en 2021, un inventaire avait permis de dénombrer 64 serres, soit le double du nombre de serres repérées lors du décompte précédent, fait en 2017. Un rapport commandé par la Ville de Montréal recommandait alors une réduction de 70 à 80% du cheptel, donc l'abattage de 45 à 51 bêtes. Devant l'urgence d'agir et la récurrence des actions de contrôle, nous recommandons l'application d'une méthode létale dont l'efficacité est démontrée. Les populations de serres de Virginie sont en mesure de rebondir rapidement à la suite d'une réduction des effectifs en raison de leurs caractéristiques démographiques et de l'immigration possible à partir des régions environnantes. Le programme de contrôle de la population devra donc se poursuivre annuellement et devra être mis à jour avec les résultats du suivi annuel de la population de serres, et ce, jusqu'à ce que les indicateurs écologiques de rétablissement des écosystèmes forestiers atteignent leur cible, indique le rapport dans la section « Résumé ». Cependant, toute la partie des recommandations du rapport a été caviardée avant qu'il soit rendu public. Le rapport indique que la composition et la structure de la végétation sont déjà altérées par 2 décennies de broutement sélectif chronique, ce qui menace l'équilibre de l'écosystème forestier. L'un des auteurs du rapport, Jean-Pierre Tremblay, professeur au département de biologie de l'Université Laval et directeur du Centre d'études de la forêt, ajoute en entrevue que les serres peuvent être des vecteurs de la tique causant la maladie de Lyme, ce qui en fait donc aussi un enjeu de santé publique. Ce rapport a été remis à Montréal alors que la décision de Longueuil de procéder à l'abattage de serres au parc Michel Chartrand soulevait l'opposition de défenseurs des droits des animaux qui ont traîné la ville devant les tribunaux. En octobre dernier,
La Cour d'appel a confirmé le droit de Longueuil de faire la chasse aux cerfs, qui aura lieu l'automne prochain. Au printemps 2022, l'administration montréalaise a mis en place un comité de travail constitué d'experts du cerf de Virginie pour élaborer un plan d'intervention. Ce document, qui inclura les actions à mettre en place ainsi que les échéanciers, est toujours en préparation 2 ans plus tard. Pour l'instant, des mesures ponctuelles de protection de la végétation, clôture, sont mises en place lorsque la ville fait des plantations, indique une responsable des communications de la ville de Montréal. Pourquoi est-ce si long? Et pourquoi Montréal n'agit-il pas maintenant que les tribunaux sont tranchés à ce sujet? Nous sommes en attente des recommandations du comité d'experts mandaté par la ville. Nous évaluons toutes les options et tentons de trouver la meilleure solution qui répond aux spécificités montréalaises. Trouver une réponse adaptée à notre métropole et aux besoins particuliers du milieu nécessite un certain temps d'analyse, répond l'attachée de presse Béatrice Saunier-Yel. Il a été impossible de faire une entrevue avec la nouvelle responsable des grands parcs au comité exécutif, Laurence Lavigne-Lalonde. Entre-temps, des cerfs ont été abattus ailleurs dans la grande région de Montréal. En novembre dernier, la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC, a abattu 399 bêtes dans les parcs nationaux des îles de Boucherville et du Mont-Saint-Bruno, où ils étaient en surnombre. Au parc national du Mont-Saint-Bruno, le cheptel avait augmenté de 119% en 2 ans. On n'y retrouve maintenant qu'une quinzaine de bêtes. La viande de gibier recueillie a été remise à des banques alimentaires. En savoir plus, source, ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. 64. Nombre de cerfs dénombrés en 2021 dans l'est de l'île de Montréal. 127. Nombre de cerfs dénombrés en 2023 dans l'est de l'île de Montréal. C'était « Les cerfs continuent de se multiplier dans l'est de l'île ». Un texte d'Isabelle Ducas, paru le 17 février 2024 dans la presse.